pas de concurrent direct, c'est pas parce que t'es tout seul dans ton écosystème qu'il faut pas savoir ce que tu veux faire. Encore plus, tu peux avoir l'envie de faire trop de choses, partir un peu foufou dans toutes les directions, avoir une roadmap plus claire et précise. 95% des équipes techniques sont des prestats. C'est la partie que j'ai trouvée finalement très intéressante culturellement. Le côté presta donne une relation employeur-employé, manager-manager, qui est beaucoup plus honnête. En dehors du travail, bah, je travaille pour des restos, en tout cas j'ai des restos.
Et des fois tu vas aider derrière le comptoir.
Je peux te faire un cappuccino, je ne suis pas le meilleur, clairement, mais je peux le faire.
Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Brosset, qui est CTPO ou CPTO de Mint. Hein. Ce n'est qu'un titre.
C'est ce que
tu me disais off record.
Bonjour, en tout cas.
Merci
de m'accueillir dans ton podcast.
Bah, c'est avec plaisir et merci. C'est cool de t'avoir. Enfin, voilà, tu bosses à Milan et pas venu à Paris depuis 4 ans.
C'est ça,
exactement. Et on réussit à le faire en face à face.
On a exceptionnellement réussi à se croiser dans une ville qui n'est pas la mienne, qui est la tienne. Mais oui, ouais, je travaille à Milan avec une boîte qui s'appelle Mint.
Ouais.
On travaille sur la publicité. Et effectivement, moi, je ne suis pas milanais, mais je suis du sud de la France. Donc, Paris n'est pas vraiment ma ville de prédilection. J'ai travaillé pendant quelques années avec Dailymotion, mais voilà. En tout cas, c'est un plaisir de monter, de te voir et de discuter avec toi.
Eh bien, écoute, on va revenir sur quelques étapes importantes de ton parcours. Quand on s'était contacté la première fois, il y avait deux, trois choses sur lesquelles on reviendra plus en détail de ton expérience chez Mint, quoi, qui m'avait titillé, quoi. Le fait que t'étais arrivé en tant que CPO et puis en fait t'es devenu CPTO justement.
Exactement,
et c'est pas un parcours complètement courant, et ça tu nous expliqueras comment ça s'est fait.
C'est toi qui as l'expérience de tous les entretiens et tous les profils, c'est pas standard,
exactement. Et puis tu bosses avec des équipes 100% remote, quasi exactement. 100% prestat, ce qui n'est pas courant non plus.
J'ai le sens de travailler avec beaucoup de profils, beaucoup de nationalités différentes chez Mint. Et ça colle bien avec l'expérience et la volonté de la boîte de travailler à l'international, pour nos clients, mais aussi pour nos employés. Donc oui, on peut en parler avec plaisir plus tard.
Eh ben, écoute, on reviendra un peu dans le détail sur ces points-là. Et peut-être avant de revenir dans le détail, est-ce que tu peux revenir sur quelques...
Qui suis-je, c'est ça ?
Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Est-ce qu'il y a quelques grands tournants dont tu pourrais nous faire part ?
Écoute, je me définis comme un provincial. Je viens du sud de la France, une petite ville qui s'appelle Antibes.
Qu'on connaît quand même. Hein.
C'est vrai ?
Oui.
Vous avez raison, parce que c'est une très belle ville et on y vit très bien. Donc j'ai fait des études d'ingénieur informatique. J'ai eu la chance de travailler dans les années 90 pour une start-up qui s'appelait Auckland, qui avait été créée par Fabrice Guinda et Sacha Fosparisi. C'était une petite copie d'eBay, sans vouloir être péjoratif. Et ça m'a permis tout de suite, à la sortie de la fac, de travailler dans le monde de la techno, et de la techno à gros volume et à grosse excitation, j'ai envie de dire, grosse croissance. Et très très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'est bien d'être informaticien, c'est bien d'être ingénieur, c'est bien d'être un bon expert de ce qu'on fait. Par contre, c'est aussi bien d'être très bien entouré et de savoir pourquoi on fait les choses. Donc tu verras, c'est ce qui explique aussi une partie de la transformation de ma carrière,
dans
en quelque
parcours,
sorte,
ouais.
De mon parcours, où j'alterne entre la technologie, la définition produit, la gestion des équipes. Parce qu'en fait, le but est plus important que ce que tu fais et le moyen, en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est une grosse partie de mon parcours et de la transformation petit à petit que j'ai faite. Donc Auckland, pendant quelques années, Auckland est racheté par une boîte qui s'appelle Quixel, qui est une boîte anglaise.
Du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté le feedback, tu racontais dans ton épisode feedback sur Thierry Bonhomme une petite anecdote.
Quand on est racheté par Auckland, alors Auckland, on avait mis notre data center à Paris parce que forcément, on n'allait pas mettre le data center à Sophia Antipolis ou à Antibes. Donc, on gérait déjà les data centers à distance. Et quand on est racheté par cette boîte QXL Ricardo, qui est un groupe à la fois anglais et à la fois, suisse, le data center qu'ils ont, eux, est à Zurich. Et donc, il est pris la décision de transférer tout à Zurich. Et donc, la méthode qui nous paraît la plus simple et un peu la moins chère, entre guillemets, la plus facile, la plus efficace, c'est de se dire qu'on va éteindre la plateforme proprement, mais on va l'éteindre et qu'on va conduire le plus vite possible pour aller transférer les serveurs à Zurich. Alors, on l'a fait en deux fois, on ne l'a pas fait qu'en une seule fois, mais on n'avait pas vraiment la capacité de tourner sur 50%.
Vous l'avez fait en deux fois ?
En deux fois, en deux étapes, c'est-à-dire d'accord. qu'en fait, deux nuits d'affilée, première nuit, tu transfères 50% des serveurs, deuxième nuit, tu transfères le 50% qui reste. Mais tu as le risque qu'effectivement, tu n'as que 50% des serveurs. Et les serveurs, à l'époque, ça ne s'achetait pas à Montgalet facilement ou quelque chose comme ça. Donc, il fallait pas se louper. Premier voyage, on envoie les serveurs, une équipe réinstalle à Zurich. Deuxième voyage, avec le camion, on traverse la frontière et voilà. Et comme je disais, j'admets que j'ai dû griller un ou deux feux rouges sur les Champs-Élysées pour gagner un peu de temps.
Quand tu as rebranché, tout s'est bien passé ou
quand on a rebranché, tout s'est bien passé. Mais je dis encore une fois, c'était pas vraiment moi qui ai rebranché. Je suis meilleur en débranchage qu'en rebranchage, pour être honnête. J'ai plus de facilité à défaire qu'à refaire des fois. Mais c'est le principe du manager à la fin. Il sait tout défaire, il ne sait pas forcément tout refaire. Mais on avait une super équipe, on avait de la bonne doc pour une fois et ça s'est très bien passé. Et la boîte est toujours là, ricardo.ch, qui est la seule entité qui reste de ce groupe-là, existe toujours. Et j'ai même toujours des amis qui travaillent pour cette boîte. Donc, c'est bien passé, on n'a rien cassé, on a été plutôt.
Ça a fonctionné, quoi.
Okay. Puis ça m'a permis de continuer à travailler, donc je n'ai pas dû faire que des erreurs sur ce sujet-là. Quoi. Les gens ont dû être contents de ce que j'avais fait. Mais donc on a été racheté par QXL Ricardo. QXL Ricardo a eu la chance de faire un bel exit. On a fait 1 milliard de livres sterling en valeur de vente. Donc c'était plutôt bien, plutôt très bien même. Donc on avait un peu de part chacun. Donc c'était une époque où on donnait des parts à beaucoup d'employés. Donc c'était plutôt une bonne chose aussi pour tout le monde. Et puis une fois que cette aventure s'est faite, que la vente a été faite, un peu de fatigue comme toujours d'un projet qui a été abouti, puisque la vente et un exit, c'est toujours une belle chose. J'ai eu la chance d'être contacté.
T'as bossé sur l'exit ?
J'ai bossé sur l'exit finalement assez peu, parce qu'à l'époque, comme c'était une société e-commerce, la vraie question c'était de savoir si le chiffre était là, la base de clientèle, le business model. Et finalement, on a eu très peu d'audits techniques sur la plateforme. Donc, je n'avais pas été très impliqué. On avait participé à une ou deux journées de réponses, questions-réponses. Mais ça, non. C'était, à l'époque, je n'étais pas assez haut dans la hiérarchie, entre guillemets. J'étais responsable d'une grosse partie des devs, voire de tous les devs. Mais ça, on n'avait pas eu besoin d'être impliqué. Après, j'ai l'impression que ça se fait quand même quand on est racheté par un grand groupe, comme c'était le cas, parce que c'était le groupe Napster en Afrique du Sud, ouais. Qui fait des médias et autre chose, dont la division, je crois, s'appelle MIH, si je me souviens bien. Et en fait, ce n'était pas la techno, à proprement dit, qui les inquiétait, c'était plus le business model, la taille du marché et ainsi de suite. Donc, le gros des questions avait été sur ce sujet-là. Donc pas vraiment impliqué à proprement parler. Par contre, projet suffisamment intéressant pour qu'une partie des dirigeants, suite à cet exit, quitte la boîte, investissent dans certaines boîtes. Et l'un d'eux a investi dans Dailymotion à l'époque, à Paris. Donc. Et suite à son investissement dans Dailymotion, m'a demandé si je pouvais filer un coup de main au départ, simplement pour aller jeter un coup d'œil aux équipes qui étaient déjà en place, au niveau de la tech et du produit, parce que lui venait de rentrer et d'investir.
Donc c'est Dailymotion, t'es pas Day One, mais t'es
non, je suis clairement pas Day One, il y a des très bons fondateurs comme Olivier Poitré et Benjamin Meshbone qui avaient fait ça, mais ils étaient toujours en place, ils étaient dans la boîte, et je pense que, comme ça peut se passer peut-être, il n'y avait pas encore forcément, les investisseurs se posaient des questions, c'est souvent le cas, c'était des jeunes, les investisseurs étaient plutôt traditionnels ou d'un certain parcours. On m'a demandé de jeter un coup d'œil et juste de rassurer sur la qualité des équipes, de la techno, de l'investissement. Et très honnêtement, j'ai dit que des bonnes choses. Les gens étaient bien, les experts étaient là, et que c'était peut-être simplement une question d'orga ou de relation entre les équipes qui étaient à créer.
Donc en fait, tu t'es dit, mais en fait, c'est cool ici, je reste.
Alors c'était assez cool, je t'avoue que les bureaux étaient à Gannerons, en face du cimetière de Montmartre. C'était une super belle ambiance. Enfin, tu as peut-être connu cette époque-là aussi, dans le milieu des années 2000, donc après la bulle, mais quand on recrée... Tout le monde avait des super bureaux, tout le monde était hyper cool. C'était les premiers boulots où on pouvait travailler en remote, où les gens étaient... Franchement, en plus, à Dailymotion, j'ai rencontré des gens qui étaient très intelligents, techniquement parlant, mais aussi vraiment avaient des gros cerveaux, on va dire. Mais le challenge était énorme. En plus, voilà, on était en face de YouTube très vite. Donc, en tout cas, on m'a proposé de rejoindre l'aventure pour pouvoir participer à la structuration de l'entreprise et à la croissance de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, je suis rentré comme directeur R&D à l'époque, puisque le CTO était Olivier Poitré, cofondateur, et qui était important qu'il garde ce titre. Mais sur la R&D, c'était la gestion des équipes produits et tech. Donc, c'est là où j'ai vraiment fait la transition. Voilà. Alors, on va clairement dire que l'expertise technique était restée et est restée quasiment jusqu'à son départ. Enfin, jusqu'à son départ, restée dans les mains du fondateur, Olivier Poitré. Mais c'est vrai que j'ai pu me concentrer plus sur la croissance de l'équipe, l'organisation, la structuration, les méthodes agiles à mettre en place et toutes ces choses-là. Et puis, des vrais specs, on a pu faire rentrer des vrais chefs de produits. C'est la première fois qu'on avait, en tout cas moi, dans mes équipes, des équipes produits à proprement parler, qui avaient pour responsabilité de définir, de specker, d'accompagner les équipes tech. Donc voilà, on a pu faire toute cette transition et ça s'est pas mal passé. On a fait rentrer Orange Capital. On a quasiment réussi à se faire aussi...
Tu as bossé là-dessus aussi ?
Ouais, ça, on a, ça là, a beaucoup là, bossé. Là, il y a eu du travail un peu plus. Même si, très honnêtement, les équipes Orange ont été très, très agréables. Réellement agréables au moment des discussions. C'était très propre, très organisé, très structuré. Des choses qui sont assez agréables quand tu es une start-up, de tomber sur quelqu'un en face qui sait ce qu'il veut, tu vois. Et puis, c'était assez rapide. Il y avait quand même un climat de confiance. En deux semaines, on avait fait les due diligence et les audits techniques et produits.
Deux semaines, ça me paraît plutôt court.
Mais parce qu'ils étaient contents, peut-être, on va dire. Il n'y avait rien qui doutait. Après, c'était une boîte française qui investissait dans un groupe français. Donc, je pense qu'il y avait aussi
une
vraie envie. Il y avait un peu de politique autour, puisque Dailymotion avait quand même une image qui était assez intéressante. Et puis, on a travaillé avec les équipes d'Orange.
Quand tu dis politique, tu veux dire quoi derrière ce mot ?
Politique, parce que je pense qu'en France, on a souvent, sur certains investissements, on y colle une étiquette, on fait des choix stratégiques, tu sais, stratégie politique. Par exemple, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, ça me fait écho à ce qui s'est passé plus tard. Dailymotion continue sa croissance. On a la chance d'entrer en discussion pour être acheté par Yahoo au Japon. Enfin, pas au Japon, Yahoo aux États-Unis. À l'époque, Yahoo, c'est Marissa Myers qui vient de revenir de Google pour prendre Yahoo et pour essayer de continuer à relancer en fait Yahoo. Et on rentre en discussion pour qu'ils achètent 100% de Dailymotion à Orange.
À Orange. Okay.
Et je te parle de politique parce que à cette époque-là, Arnaud Montebourg a décidé qu'on ne pouvait pas vendre à l'étranger les trésors de famille en quelque sorte. Et donc le deal a capoté pour cette raison unique. Simplement parce qu'un choix politique a été fait de ne pas vendre une entreprise française à l'étranger.
Le politique a bloqué en fait,
le
vraiment.
Le politique peut toujours bloquer, oui. Okay. Après, tu sais, Orange c'est toujours propriété, pas propriété de l'État, mais le gros actionnaire, ça reste l'État.
Si je me souviens, donc 30, pouvoir de décision, d'influence quand même.
De l'autre côté, je me dis que ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles, quand ils ont investi, c'était pas facile, mais en tout cas plus simple. Et c'était une bonne chose parce que je pense que le politique a quand même de temps en temps vocation à aider l'accompagnement, la croissance, ainsi de suite. C'est ce qu'ils font avec le fonds BPI ou BPI France. C'est ce que fait la politique. Ils permettent de mettre de l'argent dans la croissance de certaines entreprises pour de bonnes raisons, puisqu'il y a quand même quelques-unes qui réussissent très bien. Voilà.
Et du coup, toi, tu arrives Dailymotion, c'est encore start-up. Vous êtes combien ? Tu pars ?
Alors, je mélange peut-être dans les dates, mais j'ai l'impression que c'est en 2008. J'aurais dû regarder mon propre parcours avant de commencer cette discussion, excuse-moi. Mais j'arrive, c'est encore une petite entreprise, on est, je pense, de mémoire 150. La technique est déjà assez importante, mais ce n'est pas la structure que j'ai quittée à plus de 300 personnes, internationales, des bureaux aux États-Unis, des bureaux à Singapour, à Londres et ainsi de suite. C'est pour 100% français au niveau de la structure de l'entreprise. Et c'est encore un moment où je pense que Dailymotion avait une vraie possibilité, ou en tout cas une chance, de croître aussi bien que YouTube. YouTube n'était pas encore devenu le monstre qu'il est aujourd'hui grâce à Google. Mais bon, en tout cas, ça a été hyper intéressant parce que je te dis, c'est un moment où j'ai clairement compris, en tout cas dans mon évolution personnelle, qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus experts que moi sur beaucoup de sujets. Mais que quelle que soit l'expertise des gens, il était toujours important de les accompagner. Donc c'est peut-être le moment où moi je passe d'un mode à il faut que je réussisse à il faut aider ses collègues et entre guillemets ses équipes à réussir.
C'est un shift managérial pour toi.
Clairement. Honnêtement, clairement, parce que bah, c'est tout bête. Des fois, c'est un constat aussi, un aveu clair et net, c'est que quand les gens sont plus intelligents et meilleurs que toi, il faut l'accepter, quoi. Et il faut te demander qu'est-ce que tu peux faire au service de ces gens. Et je crois beaucoup
pour
au fait
que leur intelligence soit mise en valeur.
Bah, que leur intelligence soit mise en valeur et puis que finalement, que leur qualité soit, en fait, éclaire un peu tes propres qualités. Et donc, tes qualités, des fois, c'est du management. Le management, finalement, c'est quoi ? C'est se mettre au service de ses propres équipes et de les aider à grossir et à réussir. Et quand elles n'arrivent pas à réussir ou elles n'arrivent pas à grossir, bah, voir comment on peut les accompagner par de la transformation, du repositionnement ou des fois, malheureusement aussi, par une décision de proposer à la personne de ne pas rester, on va dire.
Ce qui n'est pas l'étape la plus sympa du
management. C'est pas l'étape la plus simple. Après, tu vois, pour être honnête, sur Dailymotion, quand j'arrive, une petite crise interne après quelques mois, on a été obligé de faire un plan de licenciement, alors que j'étais arrivé pour une croissance. Finalement, on a eu cette croissance plus tard, mais sur le coup d'arrêt, petit moment de stress des investisseurs du moment, ou en tout cas de la situation, on se contracte un peu, entre guillemets.
Ouais.
Ce qui est toujours nécessaire, je pense, dans la vie d'une entreprise, tu as des moments, des hauts, des bas. Mais voilà, on a gardé une bonne équipe, des personnes motivées, le projet a continué, on a pu acheter des boîtes, je te dis, on a fait rentrer Orange.
T'as été impliqué, toi, personnellement, dans la contraction et la mise en œuvre de...
Bah, tu ne peux pas, en tant que manager, ne pas prendre la responsabilité du choix des personnes. Tu te rends compte potentiellement que t'as pas forcément fait les bons choix. Ça, c'est vrai aussi. Mais il faut que tu fasses des choix. Enfin, tu connais peut-être les plans sociaux, mais les plans sociaux, il y a aussi un cadre assez rigide de la loi, en particulier en France. Tu dois faire des classements, des structures. Tu dois, les enfants rentrent en compte, la famille rentre en compte, le niveau d'études rentre en compte, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un choix. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, tu ne dis pas ben, les meilleurs, les plus mauvais, je déclasse, celui qui me plaît le plus, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une structure qui faut mettre en place. Mais voilà, c'était, en tout cas, ça a été fait. Encore une fois, ça n'a pas arrêté l'entreprise. L'entreprise a pu continuer à croître et elle est toujours là, une belle entreprise aujourd'hui qui appartient au groupe Vivendi et Canal+. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et puis il y a des gens qui ont, entre guillemets, survécu à ce plan social et qui sont toujours dans l'entreprise, de ce que je sais. Donc c'est plutôt, tu vois, les gens comprennent, c'est l'avantage aussi des startups et des petites entreprises. Les gens comprennent que des fois le projet il permet de croître et des fois le projet il permet plus et qu'il faut prendre des décisions.
Et toi, qu'est-ce qui te fait quitter cette aventure?
Alors, qu'est-ce qui
me
fait quitter cette aventure? Deux choses. Comme je te le dis, on a eu cette tentative, je dirais, de vente avec Yahoo, qui ne s'est pas soldée par un succès, puisqu'on a été bloqué au moment de la signature. En tout cas, la signature n'a pas été faite. On avait fait tout le process. On s'était projeté dans rentrer dans un groupe comme Yahoo. On réfléchissait à envoyer des gens peut-être plus vers Sunnyvale, puisque c'est là où était Yahoo. Donc on pensait envoyer des gens là-bas, comment on allait travailler avec eux dans un groupe média qui était fort et ainsi de suite. Quand ça ne se fait pas, bah, tu te demandes un peu quoi d'autre, quoi. Est-ce que tu veux recommencer? Parce que je savais très bien qu'on allait repartir sur un nouvel investisseur, une nouvelle vente. Ça a été finalement Vivendi, mais voilà, on commençait à se poser la question. Un petit coup de fatigue pour être honnête aussi. Ça faisait, moi j'habite toujours dans le sud de la France, ma famille était dans le sud de la France. Dailymotion c'est Paris, monter toutes les semaines c'est fatigant physiquement. Et puis,
tu faisais 5 jours
Je faisais entre 3 et 4 jours par semaine à Paris, toutes les semaines. Donc voilà, si mon épouse m'écoute, encore une fois, c'est elle qui a tenu la baraque pendant 6 à 7 ans, toute seule, avec les enfants et ainsi de suite.
C'est une grosse tranche de vie, quoi.
Ouais. C'est là qu'on comprend que les femmes sont bien plus résistantes et douées que les hommes, parce qu'elles sont capables de gérer beaucoup plus de choses. Elle a continué sa carrière, elle a élevé nos deux filles magnifiquement bien. Et donc, à un moment, coup de fatigue, comme un burn-out presque, tu vois. Et on a la chance d'avoir un petit moment à deux avec mon épouse en Toscane, où on profite d'un petit week-end de 3 jours. Et je reçois une proposition par un chasseur de tête qui me dit, tiens, il y a une boîte qui cherche un profil comme le vôtre à Florence, donc à une centaine de kilomètres de là. Et donc, je rentre un peu dans le parcours presque en rigolant, en disant, tiens, pourquoi pas, la vie est belle, il y a des oliviers, il y a des très beaux vignobles, la vue est magnifique. Et puis, je me suis retrouvé comme ça dans le groupe NTT Docomo, qui est l'opérateur numéro 1 au Japon, qui avait investi dans une boîte.
Donc là, par contre, toute la famille part à Florence?
Alors, pas tout de suite, parce que bon, on a un peu peur de la période d'essai, au cas où on ne la réalise pas. Mais oui, la famille bouge à Florence après quelques mois. Et on a passé ensemble 4 ans à Florence, donc à vivre un peu la Dolce Vita, alors pas la Dolce Vita romaine, mais la Dolce Vita florentine. Florence étant une ville magnifique, je ne sais pas si tu as déjà visité, mais c'est
il y a fort longtemps.
C'est une très belle ville, la Toscane est géniale, les gens sont extraordinaires, la bouffe est magnifique. Donc je travaille pour le groupe NTT Docomo sur du paiement mobile. Cette fois-ci, on change complètement d'orientation. Je l'ai rejoint comme CPO complètement, donc là j'abandonne un peu la technique. Il se trouve qu'au final, dans le poste de CPO, je gère des équipes techniques quand même, puisque les équipes techniques étaient rattachées à chacun des projets. Et donc voilà, j'y ai passé 5 ans. C'était génial. Franchement, c'était génial. Humainement, c'était super intéressant. Techniquement, c'était un peu moins pointu, on ne va pas se mentir, que Dailymotion, vu les volumes qu'on gérait avec Dailymotion et ainsi de suite. Mais ça m'a permis de découvrir une autre culture, travailler enfin en Italie, puisque ma femme est italienne d'origine. Donc,
C'était plus facile le move, du coup.
C'était plus facile. J'ai pu enfin progresser en italien. Alors, je ne te ferai pas la suite de notre entretien en italien, mais pourquoi pas. Et puis, je travaille avec des Italiens, des Espagnols, puisque le groupe était à la fois italo et espagnol, et un investisseur, des propriétaires qui sont japonais. Donc, découverte du Japon, de la culture japonaise.
Et alors, ça influence ?
Influence, je pense que c'est un très, très bon choix de mots. la façon de gérer des Japonais n'est pas autoritaire. Elle est ma première surprise en travaillant pour des Japonais et donc avec des Japonais, c'est que les Japonais ont une culture du compromis. Toutes les décisions importantes doivent se faire par compromis. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une pièce où tant qu'il n'y a pas presque 100% des gens qui sont d'accord sur ce qu'on doit faire, on ne décide pas. Et c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le PDG ou le responsable de l'équipe qui va dire ce qu'on doit faire. Lui, il influence. Il pousse à la décision, mais il ne prend pas vraiment la décision par lui-même. Et donc, ça peut être un peu cocasse, parce que des fois, tu peux passer 6 heures à discuter d'un sujet. Mais en tout cas, c'est la façon dont eux grandissent. Et pareil, au Japon, il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est que les Japonais, quand ils grandissent dans un groupe, ils grandissent en passant de département à département. Donc une personne peut commencer en étant un technique, il va continuer sa croissance en grandissant dans le département marketing, puis il va aller au département sales, à la finance, et c'est comme ça qu'ils grandissent. Parce que leur philosophie, c'est justement de se comprendre tous ensemble, de développer en fait une culture le plus possible à 360, plutôt qu'une expertise propre sur un sujet très précis.
Ok.
Donc voilà.
T'as vu, t'en vois les limites du coup de cette culture-là, enfin
j'en vois les limites,
choses.
Oui,
enfin, c'est bien, c'est avantage, inconvénient.
Alors je pense qu'il faut toujours mélanger la culture entre guillemets plutôt qu'avoir une culture unique. Le problème c'est que ça peut être, tu peux arriver à une situation de blocage en quelque sorte. Si tu ne trouves pas de compromis, qu'est-ce que tu fais ?
Ouais.
Il y a un moment, il faut décider. C'est là où on est très très fort sur des cultures un peu comme la France. On a plein de décideurs. on a peut-être moins le compromis des fois. Là aussi en politique, on pourrait avoir un sujet sur ça. Mais en tout cas, oui, c'est une grosse. Je pense que c'est une grosse. En tout cas, c'est un frein, je pense aujourd'hui, où il y a des moments où il faut savoir décider très très vite, quitte à se planter. Les Japonais, en l'occurrence, ont peut-être plus peur de se planter que la culture, par exemple, américaine, qui préfère à se planter 10 fois pour réussir une fois.
C'est le grand écart. Quoi.
Voilà. Donc, je pense que c'est un peu comme tout. Par contre, j'imagine que c'est ce qui leur permet d'être hyper efficace sur tout ce qui est automatisation, process, et ainsi de suite, parce que ça a été réfléchi, ça a été digéré, ça a été redigéré entre guillemets. Donc voilà. Donc la limite, elle est plus sur la réactivité et leur capacité à bouger vite. Je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les Japonais réussissent pas très bien à l'étranger en général en termes d'investissement, parce qu'on connaît finalement peu de boîtes japonaises pures qui a réussi à se développer à l'étranger. Donc je pense que c'est le vrai problème.
C'est marrant d'échanger là-dessus. J'ai fait un épisode avec Jean-Philippe Hervé qu'on a intitulé Les bienfaits des grincements.
Ah.
Et donc du coup, c'est un peu à l'opposé managérial de dire, ok, des fois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas consensuelles et qui peuvent créer des grincements, mais ça met en mouvement, quoi. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir cette vision
En tout cas, je pense qu'il faut peut-être des fois se permettre de tester les deux et de voir ce qui colle le plus à la situation et aux besoins de l'équipe, ou en tout cas aux besoins de
l'équipe. Donc, toi, tu as pris inspiré par les deux cultures, quoi, dans ta manière de manager.
Écoute, aujourd'hui, ouais, je pense que j'aurais trouvé quelqu'un de mon équipe qui vienne te parler et te faire un débrief, mais je pense être, en tout cas dans la gestion des équipes, d'être plus dans le partage et la discussion. Comme je te le disais, aujourd'hui, j'ai l'impression de me mettre plus au service de mes équipes et de les aider à choisir, entre guillemets. Forcément, il y a des moments où toi, tu dois choisir quand la décision n'est pas prise par les équipes, par un manager ou ainsi de suite. En tout cas, tu dois déclencher la décision. Mais ouais, je pense qu'une bonne ambiance de travail, une confiance de l'équipe en soi-même, en sa réussite, en sa capacité. Alors des fois, tu as raison, il faut créer un peu la friction, il faut un peu gratter, il faut un peu créer l'inconfort pour pousser les gens dans leurs limites des fois, pour les obliger aussi à réfléchir différemment, à pas juste reproduire encore et encore la même situation. Mais ouais, je suis pas dans la guerre, quoi. En tout cas, je suis pas dans le conflit.
Ok. Donc une expérience.
Donc une expérience italo-japonaise, ouais. Ainsi de suite.
Dolce Vita, on se recentre un peu aussi sur soi.
On passe du temps avec la famille, c'est très agréable. La chance de vivre à 100% avec ma famille et plus avoir à faire tous ces voyages sur Paris. Et voilà, bon, c'est une belle expérience de vie. Les Japonais, à un moment, décident de sortir petit à petit du projet. Ils avaient, voilà, c'était plus leur fond. La maison mère avait décidé que tout ce qui était investissement étranger devait petit à petit être réduit. Donc, on se met en ordre de bataille pour coupler le groupe dans lequel on appartient en deux. Et ma structure est vendue à une boîte qui s'appelle Digital Virgo, une boîte française en l'occurrence, qui est basée à Lyon et Aix-en-Provence. Et ben voilà, on est vendu. Donc là aussi, je participe au projet, on fait des discussions. 100% des équipes sont intégrées à Digital Virgo, le sont toujours. Et arrive une phase un peu spéciale, tu sais, souvent après une vente, ben, tu es dans l'équipe, tu n'es pas forcément toujours bien intégré, surtout sur certaines parties du top management. Et tu te demandes un peu ce que tu vas faire. Moi, j'avais clairement pas vocation à aller vivre à Aix-en-Provence. C'était à la fois trop près et trop loin, tu vois, de ma ville de résidence Antibes. Donc après, je crois que c'est 18 mois, bon, on décide d'un commun accord qu'il vaut mieux arrêter là. Et je profite de quelques mois de repos, après 20 ans de carrière, et je suis contacté.
Ah, t'as pris le temps,
j'ai
quoi.
Profité du... Bah, tu sais, suite à quand tu fais une rupture, t'as le temps de réfléchir un peu, quoi. Alors, j'ai pas touché le chômage, donc visiblement, je suis pas resté assez longtemps, tu vois, inactif pour profiter de ça. Mais j'ai pris 4-5 mois pour moi. Et puis, comme tu le sais,
t'as fait quoi, du coup?
Alors, j'ai beaucoup sifflé sur mon canapé, d'après ma famille. ça devait être un moment où j'étais assez bien et tranquille dans mes baskets. Mais se ressourcer un peu, déjà, penser à soi, reprendre un peu plus le sport. Il se trouve que, comme tu le sais, j'ai quelques restaurants avec des amis sur la Côte d'Azur, dans la ville de Cannes. Donc, je suis allé quasiment tous les jours traîner au resto, faire un peu barman. Je me suis pris un moment, pendant 2 semaines, j'ai fait stagiaire dans mon propre resto, derrière sympa. Le bar, pour découvrir la vie en me posant la question, est-ce qu'un jour, je serai par exemple restaurateur à plein temps et pas simplement investisseur? Et non, clairement pas. la réponse est clairement pas. Mais c'était très agréable de trouver, en tout cas de remettre les pieds dans une ambiance de travail, je dirais moins tech.
Plus
dur, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être là tous les jours, sourire. Les clients, même quand ils te prennent un café à 1,20€, il faut les servir avec le même sourire que si tu leur vendais quelque chose à 15, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est un bon moment. J'étais pas pressé, pour être honnête. J'avais pris le parti d'attendre la bonne opportunité et j'ai été contacté par Mint, donc en l'occurrence l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui a la particularité d'être une société italienne, de nouveau, qui a dû trouver mon profil intéressant.
C'était plutôt ce que tu recherchais, rester en Italie?
Pas du tout, en fait, très honnêtement, pas du tout. Mais je pense que je suis dans une situation où et avec qui n'est plus la question, en quelque sorte. C'est pas la culture qui va me créer. J'ai pas une recherche de travailler avec l'Italie, par exemple, ou avec la France, ou avec l'étranger. Le projet Mint m'a paru intéressant parce qu'on est sur un projet de transformation. D'ailleurs, Mint a créé un segment à proprement parler sur la publicité qui s'appelle l'Advertising Resource Management, où on permet de gérer de la publicité et toutes les données publicitaires. Et ça, c'est un projet qui est intéressant parce que ça... Là aussi, ça fait un peu écho à... Bah, on parlait dans une discussion juste avant qui a été enregistrée sur
L'épisode feedback.
Le feedback de ITLF1. Et effectivement, c'était une transformation de TF1 en une version plus moderne, entre guillemets, plus numérique. Plus streaming. Et là, en fait, sur la publicité, on se rend compte que la publicité est un chantier permanent, entre guillemets, sur la publicité papier, qui devient digitale, qui devient de plus en plus compliquée. Il y a beaucoup d'acteurs. Et j'ai trouvé que le projet de Mint était hyper intéressant parce qu'en fait, c'était de dire on ne va pas lancer un nouveau standard, on ne va pas essayer de chambouler le marché, mais on va plutôt essayer d'harmoniser l'ensemble des sources de données. Et puis en fait, c'est peut-être un peu écho à ce que je te disais tout à l'heure sur le management, c'est comment faire travailler tout le monde ensemble de la façon la plus efficace. Et en fait, le projet de Mint, c'est un peu ça. C'est permettre à quelqu'un qui a besoin de travailler sur la publicité digitale, mais la publicité offline, de pouvoir avoir un lieu unique où en fait on peut avoir 100% des données harmonisées, standardisées, automatisées au niveau de la collection et même avec un peu d'intelligence artificielle de permettre de prendre des décisions où tu n'as plus qu'à dire oui, tiens, changeons le budget
de
là plutôt par là parce que ça ne marche pas assez bien, celui-là marche mieux, tu as raison, je vais transférer mon budget de chez Google à Facebook, c'est peut-être le plus simple à faire et tu n'y as pas passé de temps et tu as juste fait confiance à.
Donc vous offrez un produit à vos clients qui permet aux gens qui gèrent le budget pub
en fait,
d'analyser les impacts de leur campagne,
exactement.
De l'utilisation du budget.
J'ai l'impression que tu travailles pour Mint en fait.
C'est ça.
Tu peux vendre. Et je crois qu'on embauche des personnes d'ailleurs si tu veux t'y mettre.
Je vais y réfléchir.
En fait,
c'est
oui,
en Italie.
Alors c'est en fait on travaille beaucoup en remote. On est là-bas, la société est basée en Italie, mais on vient d'annoncer que notre nouveau PDG est basé à New York. Donc, qui s'appelle Lorenzo Larini, il vient de Ipsos. Et on a donc une grosse partie des équipes historiques à Milan. Mais même à Milan, on n'est pas vraiment physiquement en permanence au bureau. Hein. Comme tout le monde, on fait du remote et c'est très bien. On a une grosse partie des équipes de développement, voire toutes les équipes de développement qui travaillent pour moi, qui sont basées en Europe de l'Est, principalement en Ukraine. Comme tu peux imaginer, dans les dernières années, la situation en Ukraine n'est pas toujours facile à gérer. Mais
comment tu as géré ça du coup ?
Alors, moi, je suis arrivé juste après. Donc, c'est moi, j'arrive en avril. Comme tu sais, la guerre, même si ce n'est pas officiellement une guerre, la guerre en Ukraine avec la Russie a déclaré en février. Ils ont géré magnifiquement bien, très honnêtement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une résilience qui est hallucinante. Ils sont capables, 2 jours après le début de la guerre, d'avoir trouvé les endroits pour s'installer, la façon de travailler et recommencer à travailler en remote au sous-sol ou dans une cave ou un truc comme ça, quoi. Donc on a eu quasiment aucune interruption de productivité. On a calculé qu'on avait perdu 5 à 10% de productivité sur les 2 mois qu'on suivit le début de la guerre.
Et ça a été monitoré, ça ?
Oui, ça a été monitoré. Bah,
c'est quasiment rien, quoi.
C'est quasiment rien parce que c'est des personnes qui je te dis, se sont mis tout de suite en mode « Ok, ça arrive ». Mais il faut continuer la vie, il faut continuer à gagner de l'argent, il faut continuer à accompagner la personne qui nous a fait confiance. Parce que ben voilà, nous, on est leur employeur, mais on est aussi, entre guillemets, leur collègue. Et d'ailleurs, même s'ils sont en Ukraine, même si certains ne les a jamais vus physiquement, puisqu'on n'a pas pu y aller, ils n'ont pas pu venir, ben ça reste des collaborateurs, au même titre que tous les autres minteurs, entre guillemets, qu'on a.
C'est collaborateurs, 100% presta, quoi.
Alors, sur la partie technique, on a une particularité que j'ai découvert en arrivant là-bas et qu'on a continué, c'est que 95% des équipes techniques sont des prestats. Alors, ils sont des prestats pour une raison qui est finalement assez simple, c'est que dans les pays dont on parle, Europe de l'Est, les gens se mettent très facilement et très naturellement à leur compte en tant que prestataire, pour des raisons de taxes pour eux. mais aussi, et c'est la partie que j'ai trouvée finalement très intéressante culturellement, c'est que ce côté presta donne une relation employeur-employé, manager-managé, entre guillemets, qui est beaucoup plus honnête. C'est-à-dire que la personne reste parce qu'elle aime son travail, parce qu'elle est bien payée, parce qu'elle est heureuse de travailler pour toi, et toi, tu gardes la personne parce que ça se passe bien, entre guillemets. Donc, on n'est plus du tout... ça permet, entre guillemets, de se focaliser sur une relation gagnant-gagnant, en quelque sorte. Et ça, c'est assez nouveau, quoi. On ne parle pas d'un plan de carrière tout de suite, de le contrat, les termes du contrat et ainsi de suite. C'est voilà, je travaille avec toi Pierre, tu travailles avec moi Sylvain, ça se passe bien, super, on continue. Et puis le jour où ça ne se passe pas bien, il y en a un des deux qui lève la main, 15 jours après c'est fini, merci, au revoir. Un peu plus à l'américaine, tu vois. Donc, et ça se passe super bien. On vient de faire les entretiens annuels, tout le monde est content. on a deux personnes dont on n'était pas
du
content.
Du coup, tu fais des entretiens annuels des prestats.
Ouais.
Alors ça, c'est pas courant, ça.
Ben, en fait, on les gère de la même façon que si ce n'était pas des prestats. Une partie de ces gens-là travaillent pour des agences, forcément, parce que des fois, tu ne vas pas aller chercher un par un toutes les personnes que tu veux. On en a en Géorgie, on en a en Ukraine, on en a en Arménie, en Azerbaïdjan, à Londres. Enfin, tu vois, tu peux travailler pour nous, quel que soit l'endroit où tu es. Et on a des prestats italiens basés en Italie, tu vois. Donc, bon, c'est plus un type,
partout,
en fait, c'est un type de contrat. Et oui, on fait des entretiens annuels. Enfin, en fait, on fait même des entretiens tous les 6 mois et un plus gros annuel parce qu'on veut savoir comment les gens se sentent, quoi. Et puis aussi pour des raisons de certification ISO, on calcule le niveau de chacun, tu sais, un expert, moyen, junior, voilà. Donc, on fait la même chose que pour des employés.
Ok.
Donc, pour nous, on en a parlé avec le nouveau PDG. Voilà, le concept, c'est un one mint. Donc, il n'y a qu'une seule entité. Et que tu sois français, employé ou ukrainien, freelancer, bah, tu es une ressource de travail et tu dois te sentir impliqué bien dans le projet. D'ailleurs, donc, quand le PDG fait un all hands tous les mois, bah, ils participent tous de la même façon.
Ok, ok, ok. Et alors, du coup, chez Mint, toi, tu es embauché sur un poste de CPO.
Alors, au début, je suis embauché, je fais les premiers entretiens sur un poste de CPO, effectivement, parce que bah, c'est ce dont ils avaient besoin à l'époque. Et puis, mon parcours et mon profil a dû les intéresser. Ils se disent, tiens, peut-être qu'il peut aussi gérer la technologie. Alors, je rentre avec une situation qui est un peu spéciale, parce que j'ai un CTO qui reporte au CPTO, tu vois, c'est un peu spécial. Encore une fois, les titres et l'organisation, c'est toujours des choses à voir. Mais leur logique, c'est très vite de se dire... encore une fois, la techno a pour but de délivrer un produit, un projet. Et donc, ben on va mettre, entre guillemets, en haut de l'organisation, une personne qui gère le produit. Et donc, la technologie va être dépendante du produit pour le livrer.
Au service d'eux.
Au service d'eux, effectivement. Donc voilà, donc je finis CPTO. Entre-temps, le CTO est parti. Donc, je suis CPTO tout seul, entre guillemets. Mais j'ai un super head of engineering, on a des DevOps qui sont top, on a des tech leads qui sont là, on a un head of product management, enfin voilà, il y a une belle équipe derrière qui travaille plus que moi, entre guillemets, qui délivre plus que moi, mais voilà, moi je coordonne tout ça et j'accompagne tout le monde.
Et alors du coup, tes gros chantiers ?
Mes gros chantiers actuels ?
Passés, qui peuvent être des succès, peut-être
sur Mint,
des
tu veux qu'on
sur Mint,
sur Mint, bah sur Mint bah le premier chantier, c'est toujours la croissance, entre guillemets, déjà, parce que c'est une société qui n'a pas non plus 30 ans. On se considère un peu toujours comme une start-up, peut-être un peu plus une scale-up. Donc, on a eu un gros chantier d'harmonisation de tout ce qui est contrat, pour être très honnête. C'était le premier chantier pour lequel on a travaillé. Le fameux One Mint dont je viens de te parler, bah c'est aussi ça. C'est... réfléchir à comment passer d'un mode où finalement il y avait eu des freelancers qui avaient été pris plus pour grossir facilement et rapidement à comment on sécurise ces gens-là et comme ils ont bien délivré, ils ont bien travaillé, comment aussi on leur renvoie un peu l'ascenseur. Donc ça, c'est un projet plus humain qui a été important et on est passé de, quand je rentre, à même pas une cinquantaine de personnes à la tech à plus d'une centaine. Aujourd'hui, l'équipe produit and tech, c'est 130, 140 personnes et puis on prévoit encore de grossir. Les autres chantiers, ben c'est...
Du coup, il y a des chantiers d'orga, quoi.
Des chantiers d'orga, voilà, on a vraiment harmonisé. On est passé d'une méthode agile un peu basique, c'est-à-dire où chaque équipe fait son petit truc avec un vrai RT, donc Agile Release Train, du PI Planning, Quarterly Review, enfin tout ce qu'on peut faire en méthode safe qui va bien, entre guillemets. Et puis surtout, réfléchir plus à la collecte des priorités. Comme la boîte grossit, comment ne pas lancer tous les chantiers n'importe comment en fonction de chacune des urgences qu'un commercial peut soulever à un projet d'entreprise sur 2-3 ans où on réfléchit à l'orientation, à la croissance. Donc ça nous amène à développer le produit par nous-mêmes, stabiliser le produit d'un autre côté, mais aussi réfléchir à des acquisitions externes comme on est en train de le faire en ce moment, puisqu'on a la chance d'avoir des investisseurs comme Tikio. Et de se dire qu'on peut aussi acquérir des boîtes et faire
des nouvelles verticales.
Alors là, on va faire plus, je pense, on va s'orienter, on discute avec certaines personnes dont je ne pourrais pas parler ici, mais on est plus sur notre cœur de métier, on va l'améliorer par nous-mêmes, donc développer la techno, se spécialiser là-dessus, et être tactiquement à l'affût si des choses qui sont des entreprises ou des produits qui sont un peu satellites, mais qui peuvent s'agglomérer aux nôtres, si on peut les acheter et les intégrer au projet pour pouvoir faire, pas dans ce cas-là, pas une croissance verticale, mais une croissance un peu plus horizontale.
y avait un truc qui m'a semblé, enfin, quand on avait discuté, tu m'avais dit, c'est assez fou, mais on n'a pas de concurrent.
Ouais, on n'a pas de concurrent.
Est-ce que
c'est une bonne nouvelle ? C'est ça la question.
Bah, en fait, ouais. Alors là, tu me décris une situation où finalement, vous structurez la vision produit, il y a une vraie priorisation des chantiers à 1, 2, 3 ans. Mm-hmm. Donc du coup, il y a une vraie dynamique. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique comme si on avait des concurrents qui allaient
On n'a pas de concurrent direct, clairement. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Mint a réfléchi à créer ce concept d'advertising resource management, parce qu'en fait, il y a beaucoup de concurrents sur une partie ou sur un segment ou une sous-partie du produit, entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu veux aujourd'hui acheter de la pub, tu sais que tu peux acheter de la pub par plein de médias différents. Tu as plein de plateformes qui te permettent d'acheter de la publicité. Si tu veux améliorer ou monitorer ta plateforme, tes investissements, tu peux le faire. Par contre, une plateforme unique qui va te permettre à la fois de récupérer l'ensemble de tes données, de visualiser l'ensemble de tes données, de réfléchir à tes succès, de faire tout ce qu'on appelle du trafficking sur ta plateforme, sur ton ad server, de déclarer ou de créer des nouvelles campagnes, tout ça ensemble, on n'a pas.
En aggloméré, il n'y a personne qui fait ça.
Alors on va forcément avoir, hein, où il y a déjà quelqu'un qui a et on ne sait pas parce qu'on n'a pas été assez bon en veille produit. Mais oui, on n'a pas de concurrent direct, en tout cas déclaré. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, parce qu'il faut aussi que tu, en gros, il faut évangéliser le marché. Pourquoi on a peut-être besoin d'une plateforme comme ça ? Mais c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, quand on parle avec des prospects, d'avoir un retour qui est positif, parce que les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai que ça peut être pratique, c'est vrai que c'est une bonne chose. » Donc on a cette partie-là d'évangélisation, de création. Mais par contre, il faut quand même une vision produit, parce que c'est pas parce que tu es tout seul dans ton écosystème, entre guillemets, ou tu es un des premiers en tout cas à découvrir cet écosystème ou à le référencer, qu'il ne faut pas savoir ce que tu veux faire, encore plus. Parce que c'est quand tu arrives sur une terre un peu inconnue ou pas forcément balisée, tu peux avoir l'envie de faire trop de choses, partir un peu foufou dans toutes les directions. Là, en l'occurrence, il faut avoir une roadmap claire et précise.
Et donc du coup, avec cette casquette produit et technique, tu es clairement partie prenante dans la priorisation des sujets.
Effectivement, je suis partie prenante. Par contre, chez Mint, très tôt, les fondateurs sont très impliqués. Andrea était encore CEO il y a quelques semaines. Carlo, le deuxième cofondateur, est COO, donc sur tout ce qui est plus opérationnel et stratégie. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est vision roadmap, on a mis en place très très tôt un système de vote, entre guillemets, assez simple, où on travaille les idées, on travaille les concepts, on avance un peu et puis on se permet une fois par mois ou deux fois par trimestre de se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets à mettre en place ? Est-ce qu'il y a des projets qui doivent devenir plus importants que des existants et on doit arrêter l'existant pour pouvoir faire celui-là ? Donc on a ce système, on n'est pas aussi on n'est pas comme les Japonais dont on parlait tout à l'heure. mais voilà, le but, c'est de mélanger la vision produit, les opportunités commerciales, la vision stratégique, parce qu'une boîte qui grossit, elle doit aussi plaire à ses investisseurs et au marché. Donc on prend en compte tout ça et on voit ce qu'on doit prendre comme meilleure décision, en fonction du coût technique aussi. Enfin voilà, on met en place toutes ces choses-là.
Et alors du coup, sur les chantiers à 2-3 ans, enfin voilà, les chantiers qui vont t'animer du coup, qui sont déjà un peu priorisés.
Les chantiers qui vont, va y avoir de l'intégration forcément, parce que si effectivement on a la chance de pouvoir conclure les discussions pour racheter ou pour... faire une fusion avec une autre entreprise, il faudra faire de...
T'as déjà fait ça ? Parce que du coup, nous parlais d'être travaillé plutôt sur des ventes, donc plutôt dans l'intégration. Alors
c'est vrai inverse, que si tu regardes mon parcours, j'ai plus travaillé sur des ventes, donc en fait, on se vend et ainsi de suite. Moi, j'ai déjà travaillé avec mes équipes sur ce genre de sujet. Quand on a rejoint Orange, on a très vite mis la plateforme Dailymotion au service d'Orange. Une partie de la télé d'Orange a utilisé les briques de techno de Dailymotion sur le player, sur ce genre de choses. Quand on travaillait avec NTT Docomo sur la partie paiement, en l'occurrence, ta brique de paiement, elle est pas que pour toi, tu la mets au service des autres. Quand j'ai racheté avec Dailymotion, on a racheté un player HTML5 à l'époque, puisque les players étaient en Java, en Flash. Quand j'ai rejoint Dailymotion, il a fallu intégrer l'équipe et la faire vraiment... voir comment on prend une techno brute qui était hyper intéressante, mais la fait mettre au service du projet Dailymotion. Donc j'ai un peu cette expérience, c'est pas la plus grosse de mes expériences.
Ouais.
Mais après, la logique est un peu la même que quand tu veux grossir, c'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a les API qui vont bien? Est-ce que la documentation ou les interactions entre les différentes composantes de ta plateforme, puisqu'on est une plateforme SaaS, sont suffisamment bien structurées et bien, je dirais presque, comment dire, est-ce que le parcours client que tu veux créer, qui existe et que tu veux créer, est suffisamment bien labellisé, bien documenté pour que l'achat que tu vas faire, si tu veux rajouter une brique supplémentaire, colle au discours, colle au parcours client que tu veux faire. Et la deuxième chose, c'est la techno, en fait. Est-ce que notre techno va être la bonne pour pouvoir travailler avec une boîte externe aujourd'hui qui va s'intégrer? Donc c'est là on est sur cette phase-là. La deuxième phase sur laquelle
ça peut être un facteur de... Ça peut être deal breaker?
Ça peut être... Oui, je pense clairement, oui. Clairement. C'est-à-dire que si on tombe sur un super projet avec une super équipe, mais qu'on a une plateforme hyper monolithique qui va pas s'intégrer, où il va falloir tout refaire, et peut-être pas un deal breaker, mais en tout cas c'est plus le même deal. C'est-à-dire que tu rachètes de la compétence, tu rachètes de l'expertise, mais tu sais aussi que tu vas passer par une phase de consolidation et de réécriture de code. Ça peut être un choix aussi, hein.
Ouais.
C'est pas voilà, on n'est
bon,
pas
c'est,
sur une...
c'est effectivement plus le même deal, plus
c'est
le même
plus
prix,
même deal, plus c'est le... pas le même prix, c'est pas le même timing non plus en termes d'impact, mais ça peut être une des choses. Nous, c'est vrai que Mint, c'est ça, c'est microservices, c'est 100% dans le cloud. Voilà, si la boîte qu'on cible, elle est pas comme ça. Encore une fois, c'est pas un deal breaker, mais c'est à prendre en compte dès le départ. Après, dans les chantiers à venir, c'est plus de la croissance. Comme je te le disais, Mint, c'est de la gestion de la publicité. Le marché de la pub, il grossit en permanence. Il n'y a pas seulement les DSP, il n'y a pas seulement les analytics, il n'y a pas seulement les ad serveurs. Il faut se connecter au plus de sources de données possibles pour pouvoir les gérer le mieux possible. Et puis nous, on se veut un process aussi d'harmonisation et d'automatisation. Donc il faut mettre en place des nouveaux scénarios clients, tout ce qui est gestion d'autorisation, tout ce qui est validation, tout ce qui est alerte sur des budgets pubs qui peuvent être trop forts ou mal gérés. Donc il y a toujours quelque chose à faire. En fait, la question... notre nouveau PDG Lorenzo très, très justement nous a dit il y a trop de bonnes choses dans la vie pour se permettre de toutes les faire, tu vois. Et donc en fait sur un projet comme Mint qui est au début de son parcours, on est un peu dans cette situation. Il faut arriver à trouver laquelle des bonnes idées est la vraie bonne idée, en fait, en quelque sorte. Et donc c'est un peu le projet qu'on a aujourd'hui.
De l'A/B testing sur les idées?
Non. Pas vraiment. Pour une raison.
Si c'est celle-là, vous y allez à fond, quoi.
Pas vraiment, parce qu'effectivement, on est encore dans un mode un peu plus. Alors, je dirais pas old school, mais en tout cas, on a confiance dans ce qu'on choisit, on y va. On devrait peut-être faire plus d'A/B testing. On a la techno pour ça, on a du feature flag, on a les KPI, on a les métriques qui vont bien. Après, est-ce qu'on a le temps? En tout cas, on n'a pas l'impression qu'on ait suffisamment de temps pour se permettre de l'A/B testing. C'est pas la situation actuelle. Je pense aussi que l'A/B testing, il arrivera peut-être plus avec un moment où la société sera un peu plus mature au niveau de sa croissance et où on n'arrivera pas à ouvrir une nouvelle porte facilement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est encore dans une phase où, en quelque sorte, quand tu ouvres une porte sur une nouvelle thématique ou sur une nouvelle fonctionnalité, en quelque sorte, elle est facilement utilisable. Donc voilà, en tout cas, on s'est pas trop posé cette question-là pour l'instant, c'est okay. Vrai. Que...
Et du coup, tu disais, on est microservices, on est SaaS. C'est quoi votre stack, du coup?
Tout ce qui est un peu open source standard, du Python, du React,
du cloud.
Du cloud, de l'Amazon Web Service, en l'occurrence, pour nous aujourd'hui, mais ça aurait pu être n'importe quel autre cloud. Le but, encore une fois, c'est qu'on puisse intégrer rapidement et efficacement des nouvelles équipes et des nouvelles personnes. Donc c'est vrai que c'est très facile avec les technos dont on parle aujourd'hui là, de croître, de trouver du personnel qualifié, rapide, intégrable en 15 jours. Voilà, aujourd'hui, quand on va chercher une nouvelle personne, en 15 jours, 3 semaines, elle est intégrée et elle peut bosser, quoi.
Du coup, question, parce que du coup, t'as pas mal de gens en Ukraine, mais pas que en Ukraine. Les contrats, du coup, ça te pose
non.
C'est quel droit du travail qui s'applique?
C'est un contrat d'entrepreneur à entrepreneur, donc de société à société.
Ouais.
Donc, en quelque sorte, tu ne te poses pas trop la question du contrat de travail. Nous, on fait en sorte qu'il y ait des conditions de travail qui soient presque identiques aux nôtres, c'est-à-dire qu'on a des jours de congé intégrés dans le contrat, on a un salaire mensuel et pas du tout à l'heure. Enfin, tu vois, on a finalement des conditions de travail qui sont les mêmes que si on signait un Italien, un Français ou un Anglais en employé. Par contre, le contrat, sans rentrer dans les détails, c'est une entreprise à une entreprise, okay. Dans les faits.
Ouais, ok. Ok, ok. Est-ce que...
ce qui est hyper pratique. Hein,
ce qui est assez pratique. Est-ce qu'il y a eu des gadins aussi ?
Des gadins, il y en a toujours. Est-ce qu'on a envie d'en parler dans un podcast devant toi ? Je ne sais pas. Des gadins, bah, après il y a des gadins, bah,
Nuits blanches ?
Il y a des nuits blanches, c'est sûr. Il y a des grosses conneries qu'on a fait, dont on n'est pas toujours fier, mais qui nous ont permis d'apprendre. Il y a eu des problèmes techniques, Dailymotion, je me souviens même de cas où un employé de data center fait tomber un seau d'eau sur le data center, entre guillemets, sur la baie.
Oh putain.
Donc voilà, des gadins, il y en a, tu vois, je veux dire, l'erreur humaine est toujours là. Il y a deux semaines, on éteint des serveurs en pleine démo, bon, ça arrive aussi, tu vois, c'est des vrais gadins, il y en a, mais tu te rends compte que c'est beaucoup d'humains, en fait, les gadins. Des fois, c'est un détail que tu n'as pas anticipé. C'est toi, en tant que manager, que ton équipe n'a pas forcément bien remonté. Ouais, voilà, c'est aussi ça. C'est d'anticiper ce qui n'est pas anticipé, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu n'as pas prévu, mais il faut avoir le plan B rapidement. Moi, je me rends surtout compte que, quel que soit le gadin, si tu as la bonne équipe, si tu as la bonne mentalité, justement, on parlait tout à l'heure d'ambiance, de comment gérer les équipes. Si les gens sont avec toi et participent au projet, en fait, quel que soit le gadin, tu vas t'en sortir. L'époque de Dailymotion, quand la baie elle devient inondée d'eau, de litres de flotte et que tu perds une partie du stockage, bah, tu as le gars qui d'un seul coup te dit « Ouais, mais on a une partie sur le CDN, on peut aller chercher les caches pour ça, on peut aller récupérer à droite, on peut reconstruire les vidéos de telle façon. » Enfin voilà, et puis au final, on a réussi à le faire, quoi. Donc... alors, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une procédure, c'est sûr. On préférait avoir une procédure.
C'est la gestion de crise. Quoi.
Mais c'est la gestion de crise. Et puis la gestion de crise, c'est aussi là où tu te rends compte que bah, finalement, l'équipe, elle est sympa et que les mecs ou les filles qui sont derrière toi, bah,
tu peux compter,
tu
sur,
peux
eux,
compter
quoi.
Sur eux. Quoi.
Oui, j'avais fait ça me fait penser à un autre podcast qui est peut-être tiens, écouté, Paul Konskali, qui aujourd'hui est décidé de la SACEM, qui m'avait raconté un ou deux samedis noirs. Et justement, il disait... c'est dans les périodes de crise que tu vois les formidables dynamiques de tes équipes, quoi.
Bah écoute, ouais. Après, tu vois, ça me fait penser à une crise qu'on a eue à l'époque où je travaillais pour QXL Ricardo. On fait une mise à jour nocturne avec Jérémy Calès qui est toujours dans cette boîte-là. Et on y passe la nuit, on devait y passer quelques heures. Finalement, la mise à jour se passe hyper mal. On arrive à remettre le service en place, mais on n'arrive pas à finir la mise à jour. Donc, on finit la mise à jour en même temps que le service est relancé, et ainsi de suite. On y passe 36 heures. 36 heures sans rentrer chez soi, devant ton ordi, essayer de trouver d'affilée. Au final, plus ou moins par miracle, on arrive à trouver une solution. Je ne me souviens plus laquelle, mais en tout cas, on l'a trouvée. On s'est dit, tiens, c'est bon, allez, hop, on peut rentrer chez soi. Et en l'occurrence, le vrai problème, c'est quand Jérémy reprend sa voiture, il prend le poteau du parking et il explose la bagnole. Donc tu vois, c'est en fait, des fois, tu donnes tout pour trouver la solution et tu as une autre galère qui te tombe derrière et tu n'as pas prévu, quoi. Mais bon, les taxis existaient déjà et tout ça, donc il a pu rentrer chez lui.
Encore une fois, une solution.
Encore une fois, une solution improvisée, mais finalement efficace, quoi.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé de ton expé chez Mint tu voudrais partager?
Écoute, Mint a aussi, en tout cas moi, m'apporte une chose que j'avais pas, en tout cas je ne touchais pas au quotidien, c'est que Mint aujourd'hui, parce que c'est des Italiens, parce que c'est des investisseurs, des entrepreneurs, on est vraiment, en tout cas je touche vraiment au côté... business entre guillemets, beaucoup plus que dans les précédentes boîtes. Dans les précédentes boîtes,
c'est vrai, très très en adhérence avec le commerce,
ouais.
En fait là,
c'est-à-dire vraiment parler aux clients, qu'est-ce qu'ils veulent, comment, parce que on est sur une brique entre guillemets presque B2B2B, là où mes précédentes expériences pourraient presque se partager du B2C. On n'est pas sur une vision où le produit et la techno peuvent se dire voilà, on va faire ça, c'est notre choix, et puis on va trouver le client, entre guillemets, le client va découvrir notre service et va y adhérer et va l'utiliser. Sur Mint, il faut parler à nos clients. Sur Mint, il faut vraiment être au contact, il faut faire des rendez-vous aux clients, il faut les écouter, il faut savoir ce qu'ils veulent, il faut comprendre leurs problématiques, encore plus que toutes les boîtes que j'ai connues avant. Et c'est des professionnels.
Elle est remontée comment, l'info ?
Elle est remontée par des entretiens, par des interviews, des méthodes de personnification de tes clients, des postes différents. Donc
elle n'est pas remontée par tiens, il y a un commercial qui a vendu cette évolution, ça peut arriver.
J'irai joker sur cette question-là. Non, mais oui, évidemment, oui, aussi. Mais le commercial te doit de remonter cette info et toi, tu te dois de l'analyser en te disant est-ce que c'est juste, entre guillemets, la lubie ou le besoin mal compris d'un commercial, ou est-ce que finalement, c'est pas une des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, ou simplement quelque chose que tu n'avais pas prioritisé qui pourrait être prioritisé parce qu'en fait, le besoin, il est là. Donc c'est de l'opportunité, entre guillemets. Et ça c'est un état d'esprit que je considère entrepreneurial, que j'ai découvert ou peut-être redécouvert chez Mint, parce qu'on est hyper proche de cette phase où il faut être aussi réactif par rapport à tes besoins clients. On va pas se mentir, si quelqu'un arrive demain matin et nous dit « je suis prêt à signer un contrat de plusieurs millions, mais il me faut cette fonctionnalité, et que cette fonctionnalité, elle n'est pas dédiée à ce client, mais elle peut être réutilisée par d'autres clients », il y a de grandes chances qu'on le prioritise et qu'on se focalise sur ça avant autre chose qui était déjà prévue.
Ok.
Et après, est-ce que j'ai oublié une chose sur Mint ? Je te dis, j'ai oublié de te rappeler à tout le monde qu'on mange très très bien en Italie. c'est très agréable d'y aller de temps en temps.
Ok. Eh bien écoute, si effectivement on a fait pas mal de tour, on va se diriger tout doucement du coup sur les quelques dernières questions.
D'accord.
Que tu connais probablement, du coup.
J'ai un peu travaillé
pour être sûr de pas... souvent. Est-ce que tu as un surnom ?
Alors, j'ai un surnom dont je suis pas très très fier, c'est Poppy.
et pourquoi pas de fierté ?
Parce que déjà, je me souviens plus vraiment pourquoi ce surnom, pour être très honnête avec toi. C'était dans les premières années après la fac. Je l'associe plus ou moins au personnage à la peluche que certaines personnes de mon âge ont. Se souviennent, une sorte de singe un peu désarticulé qui fait n'importe quoi. Et peut-être aussi parce que Poppy, c'est l'inverse de Pipo et qu'à cette époque-là, je ne vais pas toujours dire des trucs tout à fait nets et honnêtes.
C'est une explication marrante.
C'est un peu Poppy, tu vois, c'est ça. Il faut toujours mettre un peu d'humour dans notre quotidien, donc ça tombe bien.
Ok. Est-ce qu'il y a un proverbe, une expression, un mantra ?
Écoute, j'ai réfléchi parce que je savais que tu allais poser la question. J'ai pas trouvé le proverbe qui est mon proverbe et qui me colle. Par contre, j'ai découvert les quatre accords Toltec il y a quelques années. Et c'est très agréable d'y repenser et d'essayer de se focaliser là-dessus.
Donc un petit bouquin qui se lit en deux heures.
Ouais,
c'est assez rapide.
C'est assez rapide, mais il y a aussi des extracts très très bien où en 10 minutes tu peux le faire. J'ai même fait, un de mes amis qui est designer m'a fait un poster où il y a les quatre accords et un petit résumé en dessous. Donc ça, tu peux coller au mur et que tu peux mettre devant tes équipes.
Tu l'as collé au mur ?
Je l'ai collé au mur de mon bureau où je fais du remote, ouais.
Ok.
Ouais, parce que je pense que c'est bien quand tu es dans un moment, dans une réunion ou dans un moment, dans une impasse. Alors on parle des quatre accords, mais il y en a deux, moi, qui m'intéressent plus. C'est essayer de ne jamais en faire une affaire personnelle. Les gens, enfin, c'est pas une affaire personnelle, c'est un boulot. On est dans la relation humaine, finalement, c'est pas que toi. Et la deuxième, c'est de pas faire de suppositions, ou en tout cas de pas essayer de te projeter, toi, dans ce que l'autre est en train de faire. Et c'est deux choses qui, pour moi, permettent d'énormément relativiser, de voir une situation différemment, en fait. Et puis ça désamorce pas mal de conflits aussi, quoi.
Ok, donc c'est vrai que ne pas faire de suppositions, c'est... Je m'y réfère aussi,
ouais.
Ça me parle pas mal.
Je pense qu'on est tous obligés de le faire. Après, c'est le raccourci rapide, quoi. On a tous envie de le faire en même temps de notre côté.
Mais c'est pas le plus évident.
C'est pas le plus évident.
Effectivement, ok. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode ?
Alors celui-là, j'y ai pas réfléchi. Je sais pas, peut-être toujours écouter, toujours bouger, toujours essayer, peut-être.
Okay.
Peut-être un pas un titre trop court, mais quand je regarde ma carrière, finalement, si on doit parler de mon parcours, bah, j'ai eu des opportunités, je les ai prises, une partie. C'est de la chance. Pas toujours les opportunités, on ne te les propose pas toujours. Par contre, si tu acceptes jamais aucune opportunité ou si tu n'hésites pas, enfin, si tu hésites à prendre un risque, bah, tu n'as pas l'opportunité.
Tu bouges pas,
quoi. Bah, pas l'obligation de bouger, finalement. Est-ce que j'aurais fini en Italie ? Est-ce que j'aurais travaillé à Paris alors que je suis provincial ? Voilà, c'est des propositions, il fallait les prendre, je les ai prises. J'en ai sûrement loupé quelques-unes.
Mais... Est-ce que si je te propose un truc qui serait Paris-Tokyo-Milan ou quelque chose comme ça ?
Alors Tokyo, j'y suis allé qu'en vacances, pas pour le travail, ouais, donc ça colle pas tout à fait, mais ouais, ça peut le faire, ouais.
Ok.
Ou finalement, Globetrotter. Après, je trouve que on parlait de remote et on parlait de ce genre de choses. Finalement, un peu avant l'heure, peut-être, j'ai fait du remote très très tôt. Et c'est vrai que finalement, travailler avec beaucoup de cultures, je disais que j'étais pas sûr de pouvoir faire une discussion en français. Donc, je travaille en anglais. Et c'est vrai que, ouais, c'est finalement pour quelqu'un qui est dans un du sud-est de la France.
Globetrotter, ça
Globetrotter, allez, pourquoi pas.
Ok. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose ?
Qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail, peut-être ?
Qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail ?
Je sais pas, qu'est-ce que toi tu fais en dehors du travail ? Quelles sont tes activités ?
Moi je faisais pas mal de sport avant de, oui, avant de me faire deux fois le tendon d'Achille. Mais.
Écoute-moi, en dehors du sport, ouais. Vous avez pu comprendre que la nourriture est importante, ouais. Mais j'ai eu l'opportunité, après la première sortie avec Uxelles Ricardo, d'investir une partie de mon argent dans les restaurants. Donc voilà. En dehors du travail, bah, je travaille pour des restos, en tout cas j'ai des restos. Et
des fois tu vas aider derrière le comptoir, quoi.
Des fois voilà, je peux te faire un cappuccino, je ne suis pas le meilleur clairement, mais je peux le faire. Et puis surtout ouais, passer du temps, la famille, ainsi de suite, comme tu as pu le comprendre, pourquoi aller à Florence, c'était aussi pour vivre
le
en dehors.
Cadre de vie,
ouais,
quoi.
Vivre okay. En dehors du travail, le travail est
le
important.
Le travail et pas que quoi.
Mais pas que,
ouais. Ok, et bah, ça fera un beau point final.
Super.
Bah merci beaucoup pour
merci toi,
la participation et,
plaisir.
Et plein de belles choses pour les chantiers
toi aussi. Écoute,
à venir.
Aux autres podcasts que j'écouterai avec plaisir.
Ça marche.
Merci. Ciao.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.